Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres des pays membres et non membres d'Africa Rice, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant du NEPAD, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, chers frères, Monsieur le représentant de la FAO, également mon frère, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'Africa Rice, mon vieux frère et professeur Eric Tollens, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ISRA, professeur Sen, Monsieur le Directeur général d'Africa Rice, Mesdames, Messieurs les membres du comité des experts, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, chers invités, Mesdames, Messieurs les amis de la presse, tout protocole observé. Je pense n'avoir oublié personne. Chers amis, au nom du gouvernement de la République du Sénégal, j'ai ce matin ici, à la sphère ministérielle de Diamniadio, l'immense plaisir de participer à cette importante conférence. Importante conférence portant sur le riz, qui est un produit stratégique en Afrique. Mais avant d'exprimer, comme disait l'autre, l'état de mon état d'âme, je voudrais d'abord remercier et féliciter la Commission de l'Union africaine, le NEPAD, la BAD, la FAO, Africa Rice, qui, comme vous le savez, sont les co-organisateurs de cette importante conférence. Jeunes chercheurs, on a l'habitude de nous dire qu'il ne faut pas s'empresser de répondre aux questions. Il faut plutôt s'empresser de bien poser les questions. Simplement parce qu'une fois que les équations sont bien posées, on a toujours les matériaux pour pouvoir apporter des solutions. Mais ce qui est difficile, c'est de bien identifier les équations qui se posent. Quand on parle de riz dans notre continent, il y a une évidence de plus en plus acceptée. Cette évidence consiste à dire que le continent africain renferme d'innombrables potentialités. On le dit partout. Et on dit aussi ces potentialités, exploitées de façon optimale, doivent nous permettre, nous Africains, de pouvoir nous nourrir et de nourrir le reste du monde. Alors, c'est en ce moment qu'intervient l'équation difficile. Et pourtant, ce continent dont on chante tant le futur rizicole est aujourd'hui dans une situation telle qu'il représente à peu près 10% de la population mondiale, mais absorbe environ 30% des importations mondiales de riz. Et quand on observe le commerce international pour ce produit, on se rend compte, à partir de longues séries chronologiques, que le commerce international ne porte environ que sur 7% des quantités qui sont produites. Donc le riz est un produit d'autoconsommation. C'est important de le préciser. Alors, sur ces 7%, en tout cas des quantités produites, l'Asie contribue pour à peu près 77%. C'est là où il y a un risque grave. Parce qu'on le sait, il y a de moins en moins d'eau et de terre en Asie, c'est connu, et on assiste aussi à ce qu'on pourrait appeler un plafonnement des rendements, expliqué par certains scientifiques par l'épuisement des gains de productivité provenant de la révolution verte. Donc quand on nous dit en 2035, en 2050, l'Afrique va importer tant de tonnes, La question que je me pose, c'est l'Afrique va importer à partir de quel continent? C'est l'ensemble vide. Il n'y aura pas cette offre qu'il faut importer. C'est ça l'équation de fond. Et d'éminents scientifiques ont démontré, à partir d'articles parus dans des revues de haut rang, que à partir de 2020, l'Asie peut être un continent importateur net de riz. Alors, si l'Asie est un continent importateur net de riz, et c'est ce continent qui contribue pour 77%, mais il y a problème. C'est pourquoi il est juste de dire et de souligner que les pays ont tout à fait raison de chercher à obtenir l'autosuffisance rizicole. Parce qu'il y a un rétrécissement graduel de l'offre rizicole lié à la perte de vitesse en ce qui concerne la production asiatique. Donc voilà le problème que nous avons. Donc il faut qu'on s'empresse alors d'agir. C'est pourquoi il y a beaucoup d'initiatives, mais moins on fait de discours, plus on agit, mieux ce sera. Je disais à quelqu'un, ce qu'il nous faut maintenant pour le riz, c'est de dire au continent africain, il faut aller droit au but, comme lorsqu'on joue au football, pour marquer des buts. Et c'est ça qui permet de gagner la bataille du riz en ce qui concerne notre continent. Alors, que faire? Il faut le dire, il y a une diversité de discours concernant le développement de la riziculture. J'ai donc le droit d'en avoir un, que je vais peut-être fonder sur mon passé de vieux chercheur. On devient vieux sans le vouloir, mais c'est la réalité. Parce que quand je vois certains jeunes chercheurs que j'ai recrutés ici, qui sont aujourd'hui les seniors et les espoirs de notre pays pour la riziculture, je peux penser et dire que je suis vieux. Me fonder aussi sur mon passé de manager de la recherche au niveau national et au niveau international. Et bien évidemment, de mon statut actuel de ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. J'ai, mesdames, messieurs, à peu près une douzaine de messages que je voudrais partager. Le premier message consiste à dire les politiques d'autosuffisance doivent nécessairement reposer sur une approche systémique. Parce que c'est grâce à ces approches systémiques qu'on pourra effectivement faire émerger des systèmes d'innovation, écologie de l'innovation, et c'est cela qui va permettre d'optimiser les interventions des différents acteurs au niveau des chaînes de valeur. Les approches fractionnées ne permettent pas de régler la question rizicole en Afrique. Deuxième message, les politiques d'autosuffisance doivent être considérées comme des composantes des politiques de sécurité alimentaire. J'entends souvent des experts dire « Oh non, il faut abandonner les politiques d'autosuffisance, il faut maintenant des politiques de sécurité alimentaire, etc. etc. » Je pense que ces experts, sans prétention aucune, je dois dire qu'ils font peut-être une confusion conceptuelle. On le sait, c'est écrit partout, la sécurité alimentaire existe dans un pays si et seulement si on peut y trouver en tout temps et en tout lieu une nourriture suffisante pour une vie active et équilibrée. Donc, la sécurité alimentaire ne peut jamais porter sur un seul produit parce qu'il ne peut pas y avoir une vie active et équilibrée avec un seul produit. Donc, la sécurité alimentaire concerne toujours une panoplie de produits. Et on peut obtenir la sécurité alimentaire dans un pays en combinant des politiques d'autosuffisance et aussi des politiques de relance des exportations, tout en essayant de minimiser les importations. Donc, la sécurité alimentaire est un objectif global de politique agricole. L'autosuffisance est un objectif spécifique de produits agricoles. On n'a pas à choisir entre les deux, parce que l'autosuffisance est dans la sécurité alimentaire. C'est pourquoi ici au Sénégal, nous avons élaboré, à partir de la vision du président, on peut retenir que nous sommes pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Ça, c'est notre objectif global en matière de politique. Et nous avons des objectifs spécifiques. Objectif numéro 1, si vous voulez, autosuffisance en riz. Objectif spécifique numéro 2, autosuffisance en oignon. Numéro 3, relance des exportations fruits et légumes. Numéro 4, si vous voulez, fortification de la filière arachidière pour préserver et renforcer notre tissu industriel, etc. Il faut matérialiser l'ensemble de ces objectifs spécifiques pour arriver à une sécurité alimentaire. Donc, vraiment, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Et cela, nous devons le comprendre. Ce qui m'amène au troisième message qui consiste à dire que les politiques d'autosuffisance ne peuvent réussir que dans le cadre d'une agriculture diversifiée. Ce n'est pas possible de dire on va réaliser l'autosuffisance en ignorant les autres produits. Ce n'est pas possible. Parce que si on investit sur le riz, on doit aussi investir sur les produits vivriers. Si on ne le fait pas, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir des substitutions de consommation. On va consommer moins de manioc ou peut-être moins de mil et plus de riz. Et on va s'éloigner effectivement du niveau requis pour obtenir l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut, dans le cadre d'un pays comme le Sénégal, nous estimons que l'autosuffisance, ça va de pair avec la promotion du mil, sorgho, sésame. Dans le cadre d'un pays comme la Côte d'Ivoire aussi, mener une politique d'autosuffisance sans tenir compte du manioc et de l'igname peut être une erreur grave. Heureusement qu'eux, ils sont dans une logique de diversification de leur agriculture. Donc ceci me paraît quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de compétition. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre les deux. Quatrième message que je veux faire passer, c'est qu'on parle beaucoup d'investissement et tout ça, c'est bien, mais on ne peut pas massifier les investissements dans le secteur agricole de manière générale sans une réforme foncière. Il faut certainement de bonnes réformes foncières dans l'ensemble de nos pays. Lesquelles réformes foncières vont permettre une cohabitation, exploitation familiale modernisée et secteur privé dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc, la réforme ou les réformes foncières doivent permettre cette cohabitation où il n'y aura pas un transfert définitif de propriété, mais plutôt l'exploitation de complémentarité où le privé apporte quelque chose dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir bénéficier des terres, et qu'il n'y a pas de marché foncier rural qui pourrait être véritablement synonyme d'accaparement des terres. La terre, elle se raréfie, elle se dégrade, et la terre, comme nous avons l'habitude de le dire ici, va être le pétrole de demain. Et on n'a jamais vu des pays vendre comme ça pour donner l'emplacement où se trouve le pétrole, dire qu'on peut vendre ça. Non. Il faut que nous conservions nos terres, mais que nous créions les conditions pour une sécurisation de l'investissement privé sans un transfert définitif de propriété. C'est cela que nous appelons le partenariat gagnant-gagnant. Le cinquième message que je dois faire passer, c'est de dire qu'il faut qu'on élève notre niveau de mécanisation. Le secteur rizicole a besoin d'énergie. Et c'est véritablement l'élévation de notre niveau de mécanisation qui va permettre de réduire la pénibilité du travail, qui va aussi permettre d'augmenter la production, d'étaler la production et d'exploiter plus de terres. C'est pourquoi ici au Sénégal, nous avons une politique en ce qui concerne la mécanisation qui consiste à subventionner à hauteur de 60% pour le matériel de culture motorisé, 70% pour le matériel de culture attelé, et à créer les conditions pour que nous puissions aussi impliquer dans le processus de fabrication nos artisans locaux. Donc, l'élévation à partir d'une bonne subvention. Le sixième message, c'est de dire qu'il faut qu'on lutte conséquemment contre les pertes post-récolte. Africa Rice, dans ses études, nous apprend que si on réduit de 10% les pertes post-récolte en Afrique, on diminue les importations de 10%. C'est dire donc que des fois on s'empresse pour vouloir absolument augmenter la production, alors que dans bien des cas, l'impact d'une bonne conservation et d'une bonne transformation est plus significatif que l'augmentation de la production. C'est pourquoi il nous faut certainement une approche chaîne de valeur et tout faire pour faire émerger des riseries modernes. Aujourd'hui, dans mon pays, beaucoup d'acteurs s'investissent dans la vallée du fleuve pour avoir des riseries modernes, pour pouvoir avoir des produits de qualité, parce que ceci fait partie effectivement du renforcement des performances d'une filière. Le septième message, c'est de dire l'information, la formation des acteurs. C'est fondamental, parce que c'est ça qui va permettre l'appropriation et l'incorporation d'innovations technologiques. Et ceci suppose un conseil agricole et rural rénové, fortifié. Vous le savez, avec les programmes d'ajustement structurel, nos grandes sociétés de développement ont disparu en Afrique. Il faut alors, pour l'information et la formation des acteurs, en vue de renforcer leur capacité opérationnelle, avoir un conseil agricole et rural rénové et très fort. Le huitième message, c'est de dire qu'il faut un soutien à la recherche. On a beau théoriser sur les changements climatiques. Les changements climatiques, ça ne se règle pas uniquement avec de l'argent. Ça se règle grâce aux connaissances et technologies qui sont générées par la recherche. Parce qu'il n'est pas possible de faire des programmes d'atténuation et des programmes d'adaptation simplement parce qu'on a de l'argent. Non, il faut une recherche dynamique qui va nous dire voilà ce qu'il faut faire par rapport à ces changements climatiques. Donc, la recherche est un outil majeur pour faire face et régler les questions de changement climatique. Le neuvième message, c'est la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols. Pour assurer véritablement la durabilité des systèmes de production et une diminution des émissions de gaz à effet de serre. J'aperçois au fond de la salle mon ami et frère Limamoulaye Cissé, le docteur Limamoulaye Cissé de l'ECP. Je pense que tout ce que je viens de dire est peut-être important pour lui, mais ce point est particulièrement important pour lui. Parce que c'est un brillant pédologue et il fait un plaidoyer partout pour que le sol reprenne effectivement la valeur qu'il doit reprendre dans nos politiques de développement. Le dixième message, c'est un meilleur accès au marché. Si on n'a pas un meilleur accès au marché, on ne peut pas réduire les coûts de transaction et faire en sorte qu'il y ait un juste prix, c'est-à-dire un prix rémunérateur pour les producteurs et supportable par le budget des consommateurs les plus pauvres. Onzième message, c'est la promotion de l'emploi des jeunes, des femmes et des porteurs d'handicap physique. Au nom de l'équité, mais aussi de la nécessité et de l'urgence d'utiliser tout le monde pour pouvoir servir tout le monde. Le douzième message, c'est de dire qu'il faut mettre à la disposition des facteurs de production de qualité. Et là, je pense qu'on aura l'occasion de parler de tout ce qui tourne autour de la reconstruction du capital semencier, l'obtention de variétés à haut rendement, etc., etc. Et je crois que même le DG d'Africa Rice en a parlé. On pourrait véritablement, lors des débats, aborder ces différentes questions pour un renforcement de la base productive, mais aussi un renforcement des outils permettant de tirer la productivité et améliorer la qualité. J'ai certainement beaucoup parlé. J'ai aussi beaucoup osé. Parce que je suis en face de personnes qui peuvent apporter des réponses précises à mes interrogations. Donc je me suis laissé aller pour mieux comprendre et mieux agir. Puisqu'on m'avait demandé d'être bref, je vais essayer d'être bref. En récitant la formule magique, au nom du gouvernement de la République du Sénégal et en mon nom propre, je déclare ouverte la conférence de haut niveau sur le riz et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. La séance...